que là, vous êtes en vacances. Très bien. Mais à la rentrée.
On n'est pas en vacances.
Radio Campus Montpellier. 102.2 FM.
See, I got those who know and love me. Clarity is in my bedroom.
Flash lights, late nights, liquor heels and lingerie. Bottles out, lay me out, mix my cheeks with Tanqueray.
Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je n'appartiens à aucune religion, aucune secte ni quoi que ce soit. Je te parle juste avec mon cœur et j'espère que tu entendras le message que j'ai pour toi aujourd'hui.
Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.
CAS Campus, un regard sur l'actualité à l'université et à Montpellier.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour CAS Campus, l'émission de la CAS qui parle de l'actualité culturelle et associative de l'université Paul-Valéry et plus globalement de la ville de Montpellier. Aujourd'hui, on va parler plus que jamais de culture locale, si je puis dire, parce qu'on va discuter d'un des projets de la CAS, un projet qui est à l'initiative d'un ancien volontaire de l'association, Hugo. Bonjour Hugo.
Salut.
Alors il s'agit d'un documentaire qui se passe à Montpellier et qui est en rapport avec l'année vide de culture qu'on a vécue et les revendications qui en découlent. Hugo, pour faire court, on peut dire d'abord que tu étais volontaire à l'association La Case, mais tu es aussi un artiste avec plusieurs projets, Farfacide, Monsieur Miaou. On aura l'occasion d'écouter pendant cette émission quelques-uns de tes sons, mais avant, on va parler du documentaire qui s'appelle Zéro Décibel, que tu as produit avec ton ami Charlie, qui est vidéaste ou réalisateur,
oui,
c'est ça. Alors bah, déjà, rien que le titre Zéro Décibel, il inspire quelque chose, enfin, pour moi, de vide, de bruit, enfin ça évoque un peu un paradoxe puisque les décibels c'est du son, c'est du bruit et le titre c'est zéro décibel, donc c'est percutant. Je propose pour se mettre dedans qu'on écoute une petite bande-annonce afin de se rendre compte un petit peu de ce que vous avez fait.
On a fait un documentaire.
Enfin c'est pas vraiment un documentaire.
Il faut se dire quand même qu'à la base on voulait donner la parole à tous les acteurs de la musique électronique à Montpellier.
C'est vrai qu'on a un petit peu dérivé.
On a rencontré des gens super cool.
Et d'autres moins incroyables.
À la base, le format il devait pas dépasser les 10 minutes quoi.
On a dérapé, mec.
Alors super cette petite bande-annonce, tu nous dis dedans que ça devait pas dépasser 20 minutes à la base et je crois que le documentaire il fait genre 55 minutes, un truc comme ça.
Ouais. Alors, en fait à la base ouais, on devait même, je crois on hésitait entre 10 et 20 minutes avec Charlie. Amine, donc celui qui était à la base du projet, nous avait dit il faut faire un format court. Et en fait, voilà, on a explosé le budget.
Ouais, le temps prévu quoi.
Le temps prévu.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment bah, c'est arrivé cette idée de doc dans ta tête et recontextualiser un peu le moment, enfin l'idée qui t'est venue de proposer ce projet, parce que quand même c'est toi je crois qui a proposé ce projet à la CAS.
Alors en fait, ça vient d'une idée commune, ça vient d'une discussion avec Amine en fait à la base.
Okay.
Du coup, pour ceux qui ne savent pas, je précise, mais Amine c'est celui qui gère l'association La CAS.
C'est le président de l'association, ouais.
Exactement. Et du coup, j'étais en service civique avec Léa, ici présente,
oui,
dans l'association La CAS. Et à la base, moi, j'étais plus orienté sur tout ce qui est Universitech, donc pour la promotion de la musique électronique, dans Montpellier, notamment dans l'événementiel. Sauf qu'en fait, on s'est très rapidement retrouvé coincé avec le Covid et on n'a pas pu organiser d'événements. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis retrouvé à plus trop. On ne savait pas trop ce que j'allais faire de mon service civique, machin. Donc j'en ai parlé à Amine. Et putain, j'arrive pas à respirer avec ce truc. Et j'en parlais avec Amine et du coup, je lui dis « Ah, ce serait cool de faire un documentaire », mais c'était plus une idée comme ça. Et il m'a dit « Bah écoute, t'as qu'à faire un dossier de subvention à la fac ». Et on l'a fait et c'est passé.
Et à la base, tu voulais vraiment retranscrire vraiment tout... Enfin, est-ce que l'idée de base, c'était vraiment ça? Est-ce que c'était vraiment la culture, les acteurs ou c'était plus la musique électro? C'était...
Bah à la base, c'est plutôt... En fait, on a plutôt été fidèles dans la première partie du documentaire avec notre idée initiale, c'est-à-dire de faire la promo... Non, c'est pas la promotion, c'est plutôt donner la parole aux acteurs de la musique électronique à Montpellier. Je répète exactement ce qu'il y a dans l'intro, mais vraiment, c'est ça.
Mais c'est vraiment l'idée, quoi.
Et après, en fait, on a... Voilà, il s'est passé d'autres choses qui ont fait que...
Ok. Et j'ai lu dans l'article qu'a écrit Le Point avec un G, que votre doc était clairement assumé comme subjectif et militant. Est-ce que tu peux te développer un peu cette idée? Je trouve ça super intéressant. C'était quoi, du coup, vraiment l'intention, enfin le message que vous vouliez faire passer?
Bah, le message à faire passer, déjà, c'est de montrer un petit peu que la culture est en détresse. Donc c'est un peu pour ça qu'on est allé interviewer les acteurs qu'on connaissait de la musique électronique, notamment Tom de Radio Campus ou ceux qu'on connaissait en fait. La plupart, c'est des gens que je connais personnellement. Du coup, on est parti dans cette optique-là de donner la parole aux gens,
sans
forcément
militant,
parler de tout ce qui est violence policière et tout. C'était vraiment pas du tout prévu à la base. On n'avait même pas prévu d'aller en manif en fait. Et en fait, on s'est retrouvé du coup à rencontrer beaucoup de gens qui nous ont fait rencontrer d'autres personnes, etc. Et il y a un moment où on nous a, voilà, toi tu fais partie des gens qui nous ont appris qu'il y avait cette manif justement. Et on s'est dit vas-y, il faut absolument qu'on y aille en fait, parce que c'est un truc important pour la musique électronique. Et il y avait notamment tous les teufeurs qui allaient poser du son vis-à-vis des histoires qu'il y avait eu, voilà.
Et mine de rien, ça fait partie de la culture aussi, et des gens qui subissent les restrictions, donc c'est vrai que c'est intéressant.
Du coup, on s'est dit, voilà, on pensait pas en fait à la base que la partie sur les teufeurs allait prendre autant d'importance. On voulait juste les montrer, les représenter comme n'importe quel acteur de la musique électronique. Sauf que... Il s'est passé plein de choses, alors est-ce que je spoil pas le documentaire?
Non, tu peux ne pas spoiler, non, ça va. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que les teufeurs en fait dans ce documentaire, parce qu'il ne faut pas que les gens qui nous écoutent pensent que c'est un documentaire sur la teuf. Il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres personnes que vous avez rencontrées.
Il se passe un truc à un moment,
oui.
On peut le dire, les violences policières, voilà. Bon, ça arrive à un moment dans le documentaire. Nous, on ne voulait pas filmer ça à la base, mais c'était là, et on s'est retrouvés, on avait nos caméras, donc on l'a filmé, et on en a parlé, et ça a pris en fait beaucoup plus d'importance dans le documentaire que ce qu'on voulait initialement.
Ok. Et du coup, comment vous avez procédé un peu dans la construction du documentaire? Est-ce qu'il y a eu différentes étapes, ou vraiment c'était que du feeling? Parce que quand on se lance dans un documentaire comme ça, finalement, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, parce qu'on ne sait pas qui on va interviewer, on ne sait pas sur qui on va tomber, on ne sait pas ce que les gens vont nous dire. Donc comment vous avez géré un petit peu ce truc-là? Est-ce que vous aviez quand même écrit une base, ou est-ce que non, vous vous êtes dit, on verra ce que les gens vont nous dire? Et...
Alors, c'est marrant, souvent avec Charlie, quand on fait des projets, parce qu'on a fait quand même d'autres projets audiovisuels ensemble. Souvent, en fait, on écrit une base, on s'appelle, on prépare un truc, et en fait, ça n'a rien à voir.
Genre... Il faut bien commencer par quelque part, quoi.
Mais vraiment, genre, à chaque fois, c'est tout le temps pareil. C'est genre, on a des idées au téléphone, on fait ouais, c'est cool et tout machin. Et puis, quand on commence, on se rend compte que nos idées, c'est de la merde. Et on fait mieux, en fait. Et en général, c'est sur le moment qu'on improvise en fait, et qu'il se passe des choses beaucoup plus intéressantes en fait que ce qu'on prévoit à l'avance. Mais et du coup, on avait quand même une base, la base.
Vous aviez quand même une base, mais vous êtes inspiré de ce qui s'est passé avec les rencontres des gens.
Voilà, c'est ça. On s'est aussi donné un peu l'opportunité de se laisser la place d'improviser, c'est-à-dire que ce qu'on avait préparé en fait, en gros, pour être concret, on avait préparé tous les interviews.
Ouais.
Dans le sens, on savait pas vraiment de quoi on allait parler, mais on savait à qui on allait parler. Donc on avait une liste de gens... qui était disponible et prêt à faire des retours.
Et je pense qu'il y a pas mal. Enfin, vous avez fait un petit appel à témoignage. Je pense qu'il y a eu énormément de retours, non? Des gens qui voulaient prendre la parole, ou pas tant que ça?
Oui.
Parce que toi, t'as quand même une communauté assez. Enfin, tu connais pas mal de gens de la culture avec Farfacile et tout ça. Et quand t'as fait ton appel à témoignage, il y a pas mal de gens qui ont voulu parler. Ça...
Bah, en fait, je l'ai fait qu'une fois. Je l'avais fait pour quand on cherchait un intermittent qui n'avait pas eu le statut à cause du Covid.
Ouais.
Donc c'est quand même un truc très pointu. C'est pas le cas.
C'est précis, ouais, comme demande. Ouais.
Et oui, effectivement, il y a eu plein de gens qui m'ont contacté en mode hey, salut, je fais du son, je peux être interviewé.
Ouais, mais du coup, ça décrit quand même quelque chose que ces gens-là qui n'ont pas souvent la parole avaient. Oui. On sautait sur l'opportunité d'avoir la parole.
Alors
quoi,
que ça n'avait rien à voir avec ma demande, mais ouais. C'est vrai que voilà, ça traduit ça. C'est que je pense que voilà, on a interviewé une bonne vingtaine de personnes, peut-être plus, je sais pas. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qui ont des choses à dire. Voilà.
Oui, c'est clair. En tout cas, merci d'avoir précisé tout ça. On parlera après de vos choix de diffusion parce que enfin, du documentaire. Mais avant, on va parler un peu de son et on va s'écouter une exclue de ton projet Farfacide. Mais je voulais savoir, du coup, pour faire la petite transition, comme tu fais du son, est-ce que du coup, c'est toi qui as fait les bandes originales du documentaire? C'est toi qui t'es occupé du son?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est moi et Charlie.
Vous avez fait ça ensemble?
On a fait ça ensemble, même si voilà, moi j'ai plus de spécialité dans le son et lui plus dans le montage. On a tout fait ensemble, c'est-à-dire que il y a des moments où forcément il y en a un qui est plus investi que l'autre dans tel domaine parce qu'il maîtrise mieux.
Mm-hmm.
Notamment le montage, Charlie, il fait des trucs beaucoup plus incroyables que moi. Voilà, c'est son taf, il évite ça. Même en termes de caméra, moi je suis là en mode automatique avec ma petite caméra. Lui, il fait ça, il a son gros truc et tout, c'est pas le même level. Mais du coup, pour revenir à la bande son, on l'a faite à deux et la plupart des musiques sont effectivement des musiques à moi ou des collabs dans lesquels j'ai participé.
D'accord.
Et Charlie, il y a une track à lui entière qu'il a fait tout seul.
Et il y a quand même des créations originales ou pas dans le doc? Enfin, des trucs que vous avez créés spécialement pour le documentaire?
La musique de l'intro, l'espèce de bass house, ça a été créé pour le doc. Après, il y a la musique d'une séquence, comment expliquer ça, la séquence où il y a IND qui parle sur un texte des Insoumis. C'est une musique que j'ai faite pour le doc. Enfin, si on peut appeler ça une musique, parce que le truc, ça dure 30 secondes.
Oui, ok, c'est un petit extrait de son.
Et puis après, voilà, il y a du sound design, il y a des trucs comme ça, mais voilà.
Ok, cool. Est-ce que tu peux présenter un peu Farfacide, son univers, avant qu'on s'écoute, qu'on s'écoute la track?
Alors, Farfacide, me présenter. Je suis un espèce de mélange hybride entre la core et la trance. J'essaie de réunir les transeux et les choreuses sur un même dance floor.
Compliqué.
C'est
compliqué. Mais gros challenge, mais sympa.
Et je dirais que le dénominateur commun, c'est les acides. Même s'ils ne sont pas mis au premier rang, comme dans l'acide core ou l'acide techno, c'est plus un élément qui va lier le tout. Et voilà.
Ok, très bien. Ça fait combien de temps que tu existes en tant que Farfacide?
Ça fait 3 ans, là.
Ok, déjà.
Farfacide, ça a 3 ans et demi.
Et concernant la track qu'on va écouter, qui n'a pas de nom, voilà, du coup, comme tu m'as dit avant, quand on préparait l'émission, tu peux nous en dire un mot? C'est une exclue, je rappelle, du coup, elle n'est pas encore sortie, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a inspiré de cette track?
Sûr. Pour la petite histoire, en fait, j'ai un pote qui m'a montré comment obtenir des VST incroyables qui reproduisent des cuivres de musique balkan.
Ok.
Et ça fait très longtemps, en fait, moi, je veux faire de la musique balkan. Et en plus, l'autre fois, il y a Freddy Frogs qui est venu, qu'on avait interviewé, qui avait fait une musique balkan. Et je voulais trop le faire, mais je pouvais pas parce que j'avais pas les outils. Et là, en fait, depuis, j'ai ces outils. Et je peux le faire, donc je l'ai fait. Sauf qu'entre temps, je me suis un peu fait rattraper par la core, c'est-à-dire que à la base, c'était censé être de la techno un peu balkan, avec des influences balkan, mais au final, c'est un peu plus vénère. Donc vous allez voir, je sais même pas si elle va sortir en l'état, peut-être qu'elle va être modifiée un petit peu d'ici là, je sais pas. Et...
Ok, soyez indulgents du coup. Eh ben écoute, on s'écoute la track sans
nom. Soyez critiques.
Oui, soyez critiques, c'est bien aussi. On s'écoute la track sans nom, appelée aussi Techno Balkan de Farfacide. On se retrouve juste après pour continuer à parler de Zéro Décibel, le documentaire.
Tutti liberi da fedare.
De Farfacide, techno balkan un peu. Est-ce que t'as une date de sortie pour ça ou pas du tout?
Alors pas du tout. Sinon je pense à peu près la semaine prochaine. Mais si vous voulez en savoir plus vraiment, abonnez-vous.
Bah oui, il faut suivre Farfacide sur SoundCloud, sur Facebook, sur Instagram, sur plein de choses. On va continuer de discuter du documentaire Zéro Décibel. Pour ceux qui nous rejoignent, Zéro Décibel, c'est un documentaire produit par l'association La Case et réalisé par Hugo et Charlie. Hugo qui est avec moi en studio et Charlie que l'on salue d'ailleurs parce qu'il n'est pas avec nous, il est à Lyon, mais oui. Il a beaucoup beaucoup taffé avec ça sur ce doc, hein, je crois.
Charlie qui me semble être sur un tournage, salut Charlie.
Bonjour Charlie. Et d'ailleurs, comment vous êtes répartis un peu le taf, Charlie et toi? Vous avez vraiment tout fait ensemble?
On avait chacun un ordi. En fait, moi j'ai acheté un PC mon ancien PC m'avait lâché il y a quelques mois.
Okay.
Et du coup, je me suis retrouvé obligé de m'acheter un PC parce que j'avais pas le choix pour faire du son et tout.
Tu m'étonnes.
Et du coup, je l'ai acheté, les choses se sont bien faites. Je l'ai acheté juste avant le montage du documentaire. Et heureusement que j'avais cet ordinateur. Parce que du coup, on a pu faire le montage chacun sur son ordi.
Ouais.
Donc on se répartissait les séquences. Quand on avait passé une journée entière à bosser sur la même séquence, on échangeait, on passait sur l'ordi de l'autre.
Mm.
Et ça permettait de remettre à zéro un peu le mojo, l'inspiration.
Ouais, tu m'étonnes. On parlait en début d'émission de vos intentions et du message que vous avez tenté de véhiculer, en tout cas. Concernant la diffusion, quels ont été vos choix? Où est-ce qu'on peut retrouver le documentaire et pourquoi?
Alors, ça a été un long débat. En fait, au début, on voulait vraiment l'envoyer à des festivals, des festivals de courts-métrages, de documentaires, enfin, c'est pas vraiment des courts-métrages.
Parce qu'à la base, s'il devait faire 10-20 minutes, effectivement, c'est un bon format pour le festival. Hein,
mais même après, en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait encore qu'on allait le donner à des festivals, mais le problème, c'est que la plupart des festivals veulent des exclusivités. Et qu'on en a conclu que si on voulait rester dans l'actualité, que si on voulait rester proche de notre communauté, si on voulait... Enfin, plein de paramètres ont fait qu'on a choisi de le sortir sur YouTube. Et du coup, il n'est que sur ma chaîne YouTube actuellement.
Ok. Et justement, du coup, cette accessibilité, le fait de mettre à disposition gratuitement, parce que du coup, sur YouTube, c'est gratuit. Le doc, c'est aussi... Enfin, moi, je l'ai interprété aussi peut-être un peu comme ça. C'est une façon de montrer qu'une parole que l'on a... qu'on n'a pas assez vu dans les médias selon toi, parce que au final le fait que ce soit hyper accessible, c'est aussi une façon de dire ces gens-là on les entend jamais, c'est gratuit, tout le monde peut y accéder, quoi.
C'est un peu ça, ouais.
Ouais.
C'est un peu aussi une manière de partager la responsabilité, c'est-à-dire que en ne donnant notre travail qu'à des festivals, on ne donne pas la possibilité à la communauté de partager et voilà. Et au final, on regrette pas de l'avoir fait parce que les gens ont grave suivi, on a eu des super retours, il a été beaucoup partagé et ça fait plaisir, ça met en confiance vraiment.
Et c'est totalement exclu que ça sorte en festival quand même ou pas ?
Ça dépend des festivals, après moi j'y connais rien, je t'avoue, mais ouais. Charlie me disait que souvent ça se passait comme ça. Et on l'a quand même envoyé à un festival, alors je sais même plus le nom, je t'avoue, mais c'est Charlie qui s'en est occupé, et voilà, et apparemment, il voulait pas l'exclure, ou alors s'il la voulait, ce sera mort dans tous les cas, voilà.
Ok, trop cool. Est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment, quand vous vous êtes rendu compte que le doc faisait beaucoup état aussi du monde de la free party, que ce serait dur de se démarquer des autres docs, parce qu'en fait, il y en existe pas mal en accès gratuit, des documentaires sur la free party, tu vois, sur YouTube. Est-ce que vous vous êtes posé un moment cette question ou pas ?
Oui, mais au début. Et ouais. C'est pour ça qu'on a essayé un petit peu d'intégrer ce côté. On voulait faire un documentaire, mais on voulait faire aussi un truc accessible pour tout le monde.
Ouais.
C'est pour ça qu'on a fait ce côté un peu YouTube. Donc on a essayé on a plusieurs
forme,
influences,
ouais.
En fait, on a voulu mélanger trois influences. Donc la première, ça va être l'influence documentaire, hein, forcément. L'influence un petit peu YouTube, donc avec ce côté où on est face à notre ordinateur en train de regarder nos propres rushs. Ça vient, ce plan-là, il vient clairement de, comment il s'appelle, YouTuber, là, le...
Je suis très nul, je suis pas dans le YouTube.
Ah, j'ai mangé son nom, si ça me revient, je vous dirai. C'est terrible. Mais bon, bref, on a piqué le plan à un YouTuber. Et...
on lui passe le bonjour on aussi. Merci
c'est
pour
Fabien Olicard, voilà, c'est ça.
Fabien Olicard,
il fait ça.
Oui,
il se met devant ses. Quand il a fait des vidéos à la télé, par exemple, il se met devant son écran et il analyse ce qu'il fait. Et on a trouvé ça génial, on s'est dit, vas-y, il faut faire ça.
Et puis ça donne une légitimité de vos personnes. Enfin, genre, ça fait en sorte. Enfin, on comprend qui vous êtes, on vous suit dans votre délire.
Ça permet de s'expliquer, quoi. D'expliquer nos intentions, de s'il y a plein de trucs qui sont complètement incompréhensible. Toi, t'avais vu les premières versions. En vrai, c'était pas compréhensible en fait pour quelqu'un qui est extérieur au truc. Et du coup, la troisième influence, je dirais que c'est le cinéma pour le coup. En essayant de faire des plans un peu stylés avec des lumières et tout, comme notamment dans
c'est visuel aussi. Ouais, il y a des choses qui sont assez visuelles. Et du coup, pour terminer un petit peu cette interview avec toi, je voudrais parler un peu de l'aspect technique, le concret. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de faire des documentaires et qui c'est leur premier, ils se demandent. Vous avez travaillé, j'imagine, en amont, comme tu disais tout à l'heure, avec une base de départ qui a un peu dérivé. Comment ça se passait pendant les interviews ? Comment ça s'est passé après le dérushage, tout ça ? Est-ce que tu peux développer un peu cette idée ?
Alors, à part avec Tom de Radio Campus, qui est un véritable tyran... Non, je rigole, je rigole. Il est super cool, c'est le meilleur gars du monde. En vrai, on avait juste filé des rendez-vous aux gens. Et en fait, moi, j'avais rien préparé. J'avais pas de questions, en fait. J'avais rien.
Ouais.
Et j'arrivais, j'improvisais, en fait. Mais du coup, c'était une discussion. Et c'est aussi ça, aussi, le fait que les gens se livraient, je pense. C'est que, comme j'avais rien préparé, c'était pas formel. C'était vraiment en mode, je pose des questions, on discute...
Et puis Charlie se faisait tout discret dans le coin avec sa caméra,
ouais,
en mode oubliez-moi, discutez ensemble.
Bah après Charlie, ça lui arrivait de poser des questions aussi quand moi j'oubliais des trucs, voilà, comme j'étais dans l'impro, il y avait des sujets des fois que je loupais. Charlie, il arrivait, il complétait, il faisait ah ouais au fait, mais il attendait que j'ai fini quand moi j'avais plus rien à dire, il faisait ok, t'aurais dû parler de ça, enfin il posait directement la question quoi.
Et concernant le dérushage, les sous-titres et tout, vous avez eu combien de rush, comment vous êtes débrouillé pour dépatouiller tout ça, parce que j'imagine que si à la base tu te dis ça dure 20 minutes et que tu te retrouves avec 55 minutes de documentaire, c'est que t'as peut-être soit abusé, soit il y a trop de gens, je sais pas.
Je vais commencer par par un petit conseil que je vais donner à tous les gens qui veulent faire des documentaires ou n'importe quel projet dans le délire. Ne filmez pas en 4K, c'est une énorme connerie. On a fait plus de 4 téra de rush, on a dû acheter des disques durs et tout, on en a chié comme pas possible. Et le problème, ouais, c'est que voilà, le 4K non compressé, c'est très lourd, ça fait bugger les ordi alors que Charlie il a un PC de ouf. Moi je pouvais pas tout mettre, je travaillais par séquence parce que c'était impossible sur mon PC.
Vache.
Alors que j'ai un bon PC quoi. C'est quoi la question déjà ?
Je te demandais comment vous êtes débrouillé pour des rushers, comment tu fais pour choisir quand t'as 4 téra de rush, tu fais comment pour te débrouiller quoi ?
C'est simple, en fait on s'est enfermé chez Charlie après le montage. Charlie il a une tour, donc on était obligé d'aller à Lyon, Charlie habite à Lyon, on était obligé d'aller à Lyon pour finir le documentaire et le montage. Et du coup ce qui s'est passé c'est que au début pendant 2 semaines on s'est enfermé chez lui, littéralement. Genre on a vu aucun être
humain. Merci le Covid là du coup, c'est bien, content.
Ouais, Covid ou pas, ça aurait rien changé. On était chez lui, on ne bougeait pas de notre bureau comme ça. Genre moi j'avais mon lit à côté du bureau comme ça. Donc je me réveillais le matin, je m'assieds sur la chaise, je taffais comme ça. Et on faisait 15 heures de taf par jour. On faisait que ça. Et voilà, et en fait, dès qu'on n'en pouvait plus sur un truc, on échangeait pour pouvoir passer à autre chose. En fait, c'est important de ne pas être trop blasé par ce qu'on fait, parce que quand t'as fait...
Bah ouais, faut kiffer, parce que sinon tu prends, voilà, tu prends du plaisir, hein, je pense.
Et là où on s'est vraiment fait chier, ça a été les sous-titres.
Ah, là, t'as pas pris de plaisir pour les sous-titres,
c'était
Hugo.
Ignoble, vraiment, les sous-titres. Bah, on a découvert après qu'on pouvait payer des gens pour faire les sous-titres.
Ah,
et franchement,
bah ouais,
on
ouais.
aurait dû le faire, parce que je crois que c'est 50 ou 100 balles, et on regrette. Si un jour vous devez faire les sous-titres, ne les faites pas, payez quelqu'un, c'est mieux.
Bah ouais, c'est chaud, faut se relire et tout, les fautes d'orthographe machin, c'est galère.
Ouais, c'est ça, mais non, mais alors les fautes d'orthographe, j'en parle même pas, mais juste pour écrire les sous-titres, on a mis en gros 2 jours, mais chacun, donc c'est-à-dire qu'on avait tous les deux notre ordi, donc c'est l'équivalent de 4 jours de taf, mais 4 jours de 12-15 heures quoi, donc à écrire les trucs, à faire le robot, on était vraiment des robots, et après, donc voilà, au bout de 2 jours, donc x2, qu'on avait 2 ordi, je suis retourné en Ardèche chez mes parents. J'ai montré les fautes à mon père qui est prof de français, donc on les a corrigées.
Ça, c'est cool.
Et en fait, oui, parce que là, il y a encore plein de fautes dans le documentaire, mais on en a enlevé 1 milliard, littéralement. Et du coup, bah, il y a encore quelques trucs qui ont fuité, notamment certains textes qui étaient là, en fait, avant.
Ah
et
oui,
du coup,
des textes qui sont
c'est
restés.
C'est des trucs qu'on a oubliés, en fait, et qu'on a, on va le dire vraiment, hein, on l'a un peu bâclé, les fautes d'orthographe, on aurait pu, mais on avait des délais. Il fallait qu'on sorte le documentaire assez vite. Nous, c'était l'horreur pour nous, et du coup, on a décidé d'assumer le fait qu'il y a quelques fautes d'orthographe. Mais voilà.
Et c'est pas très grave, on vous en veut pas, c'est pas de souci pour ça. Bah, merci, Hugo, en tout cas, pour les précisions et pour le travail que Charlie et toi vous avez fourni. Parce que moi, je trouve que vous montrez clairement une réalité et vous donnez surtout la parole à des gens qu'on entend que trop rarement sur l'actualité de la culture de manière générale, et encore bien moins depuis le Covid, je trouve. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu veux nous parler d'une anecdote ou pas, avant de terminer en beauté cette émission avec une autre exclue de toi?
Je ne sais pas, voyez-vous.
Non, je sais pas, une anecdote. Ah si, la piqûre d'abeille. J'étais là au
la
moment.
La piqûre d'abeille, ouais.
Et ça, c'est des petits délires. Ouais.
Charlie était en train de faire un plan, et quand il a voulu se baisser pour faire un travelling incroyable, pique.
Il s'est fait piquer derrière du genou, horrible.
Moi, je crois que la meilleure anecdote qu'on ait du tournage, c'était, c'est pas vraiment dans le tournage, mais c'était juste avant qu'on interviewe quelqu'un. Je crois que c'était le gars de la mairie, je me rappelle plus. Bref. Et juste avant l'interview, on était là, tranquille, posé sur un banc, et puis il y a un gars qui vient nous parler et tout. Et puis nous, on continue notre discussion, il se met genre à 1 mètre de nous, et en fait, au bout d'un moment, avec Charlie, on se regarde, on fait « Hey, ça sent l'essence un peu !» Et en fait, le mec à côté de nous était en train de préparer un cocktail Molotov, voilà. On était en plein centre de Montpellier, et...
Et voilà. C'est flippant, mais c'est flippant.
Et on regrette de ne pas avoir filmé, quelle erreur.
Ok, et ben, est-ce que tu veux nous dire un mot aussi sur la track qu'on va écouter? Je crois que c'est une collab de toi et Sid.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai choisi de partager cette musique-là plutôt qu'une de mes tracks en solo, parce que Hugo, je te kiffe déjà. Voilà, il s'appelle Hugo, Sid. Et en fait, c'est un projet qu'on a commencé il y a à peu près 1 an. On est tous les deux. Donc lui, il s'appelle Sid, S-E-E-D.
Ouais.
Moi, c'est Farfacid. ACID, donc ouais. Comme l'acide, et quand on est ensemble, c'est Farfacid SEED. Et du coup, voilà,
c'est
on
la belle fusion, ça.
On est sur toutes les plateformes, on fait partie de UNSR Records, notre projet en duo, et ça, c'est la première track qu'on ait faite ensemble.
Ok, super, donc vous en êtes fiers. Est-ce qu'elle est terminée, celle-là, pour le coup?
Elle est finie, elle est en ligne, elle est... Voilà.
Ok, trop bien. Mais en tout cas, si vous voulez regarder le documentaire 0 décibel dont on parle depuis 30 minutes, là, vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube de Farfacid, c'est ça?
Ouais.
Vous pouvez également retrouver la case sur Facebook. On vous quitte, du coup, sur Up and Coming, c'est ça?
Up and Coming de Farfacid EED.
Et de Sid, en espérant que cela vous plaise, et on vous souhaite une très belle après-midi sur Radio Campus. Thank you.
We'll be right back.